Et le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Faut-il prolonger le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain? Il y a débat alors qu'un projet de loi est présenté ce matin au Conseil des ministres. Le gouvernement parle de précaution, l'opposition crie au déni de démocratie. On va les entendre dans un instant. On croyait qu'elles avaient disparu avec le Covid, mais les bises sont de retour. Un relâchement des gestes barrières qui inquiète les autorités sanitaires et qui réactive les virus de l'hiver. Alerte à la bronchiolite en Île-de-France. France, les services de réanimation pédiatrique sont déjà saturés. 30 milliards pour la France de 2030, le plan d'investissement annoncé hier par Emmanuel Macron. On en parle avec votre invité à 8h20, Nicolas.
Oui, la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, à notre micro avec Léa dans une grosse vingtaine de minutes. Vos questions dès maintenant, amis auditeurs, en passant aujourd'hui par l'application France Inter et les réseaux sociaux.
Et comment faire rayonner la France des séries face à Netflix? C'est l'une des ambitions du président, alors qu'on apprend qu'Omar Sy vient de s'engager pour plusieurs années avec la plateforme américaine. On va tout vous expliquer. Dans ce journal aussi, la belle histoire du rapatriement d'un maire afghan à Montpellier et des arbitres de foot. Faut-il les entendre à la télé pendant les matchs? La Ligue y réfléchit sérieusement.
France Inter.
Au restaurant, au cinéma, dans le train ou à la piscine, montrer son QR code est devenu un réflexe depuis le mois d'août. Initialement, le pass sanitaire devait s'arrêter le 15 novembre, mais il doit pouvoir être réactivé ou prolongé si la situation épidémique se détériore à nouveau. C'est l'argument du projet de loi qui sera donc présenté ce matin au Conseil des ministres avec une nouvelle et lointaine date butoir, le 31 juillet 2022. Ce qui présage, Élodie Forêt, d'inévitables batailles au Parlement dans les semaines qui viennent et dans la perspective de la présidentielle.
D'un côté, la majorité est convaincue des bienfaits de cette prolongation jusqu'à l'été.
Gardons ces outils au cas où, à un moment ou un autre, il y avait une reprise de la vague.
Olivier Becht, président du groupe Agir.
Imaginez qu'on ait une vague au mois de mars prochain, à 3 semaines de l'élection présidentielle. Vous allez réunir le Parlement et vous pensez que tout le monde va dire « bah oui, il faut prendre des mesures, et on n'a pas le choix ». Bien sûr que non. Vous pourrez compter sur un festival de la démagogie où chacun viendra dire « ah bah il faut surtout pas faire ça » pour l'exploiter politiquement.
Enjamber la présidentielle donc pour ne pas hystériser les débats à quelques semaines de l'élection. Un argument irrecevable pour l'opposition qui refuse de donner un blanc-seing au gouvernement. Aurélien Pradier, député et secrétaire général du Parti Les Républicains.
Il n'y a aucune espèce de raison de laisser toute latitude au pouvoir exécutif sans contrôle parlementaire. C'est ça qui est absolument inouï. C'est cette habitude que nous avons de désormais placer le Parlement loin du contrôle des privations de liberté. C'est absolument terrible pour les habitudes institutionnelles des années à venir.
Les LR qui demandent une clause de revoyure en février sans laquelle ils ne voteront pas le texte. On ne peut pas s'asseoir sur la démocratie, prévient aussi le communiste Pierre Dharréville, rappelant que les députés sont élus jusqu'en juin et à tout moment mobilisables.
Il devrait bien y avoir un point d'étape devant le Parlement au plus tard fin février. Le texte présenté ce matin a été légèrement modifié après un passage devant le Conseil d'État. Pour l'instant, l'épidémie est toujours en phase de reflux. Baisse des contaminations, baisse des hospitalisations et des réanimations, mais encore 54 morts hier à l'hôpital. La vaccination couvre une immense majorité des plus de 12 ans. Plus de 49 millions de Français ont reçu leurs 2 doses. Mais attention au relâchement, alerte les autorités sanitaires qui notent un recul des gestes barrières, masques baissés, retour des bises, moins de lavage des mains, notamment sur nos lieux de travail. Reportage dans une PME parisienne, signé Yann Gallic.
Dans cette petite entreprise spécialisée dans les cours de langue sur Internet, les salariés ont repris leur activité professionnelle en présentiel. Ils sont une trentaine à travailler dans un vaste open space. Derrière leurs écrans d'ordinateur, la plupart des employés, comme Katharina et Rita, ne portent plus le masque en permanence.
C'est difficile au quotidien d'avoir le masque 8 heures par jour.
C'est agréable de pouvoir se voir sans masque, se parler. Quand on est sur notre poste de travail, on peut quand même respecter les distances entre les collègues. Et surtout, on est quasiment tous vaccinés. Après, effectivement, quand on est ensemble dans des espaces clos, comme dans les salles de réunion, on met systématiquement les masques.
Sur les portes et les murs, des petites affiches humoristiques ont été placardées pour rappeler les règles sanitaires. Un rappel parfois nécessaire, reconnaît Benjamin Lévy, le patron de cette PME.
Le relâchement est bien naturel et c'est humain. Il suffit de se rappeler collectivement qu'on est toujours soumis à ce respect des gestes barrières, ne serait-ce que pour que tout le monde, y compris les plus frileux à cette reprise, reprise du travail normal au bureau ne se sentent pas en danger.
D'après une récente enquête de Santé publique France, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. En avril dernier, 75% des Français disaient ne pas se serrer la main ni s'embrasser pour se saluer. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 58% à respecter cette règle de manière systématique.
Et c'est sans doute une conséquence de ce relâchement des gestes barrières bien respectés. L'an dernier, ils nous ont permis d'éviter les virus de l'automne et de l'hiver. Le problème, c'est qu'ils reviennent cette année alors que notre immunité a baissé, ce qui provoque une flambée précoce des bronchiolites, cette maladie respiratoire qui touche les enfants de moins de 2 ans. En Ile-de-France, les services de réanimation pédiatrique sont déjà saturés et les cellules de crise ont été réactivées. Écoutez, Daniel Floret, il est pédiatre et spécialiste des maladies infectieuses.
Ça survient à une période tout à fait inhabituelle. La bronchiolite, c'est souvent aux alentours de Noël, entre Noël et le jour de l'an, c'est souvent le moment. Donc là, on est très en avance sur les épidémies habituelles. Il y avait une épidémie de bronchiolite tous les ans. À peu près la moitié des enfants de moins de 1 an rencontraient le virus. Et donc, ils s'immunisaient. Donc l'année suivante, ils étaient immunisés. Là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Ce qui veut dire que les nourrissons et les jeunes enfants, ils sont vierges vis-à-vis du virus respiratoire. Les conséquences, c'est qu'il va falloir réorganiser les services de pédiatrie. Les services vont sûrement être obligés de transférer des enfants dans d'autres régions qui ne sont pas encore trop touchées par l'épidémie.
Et sans doute pas dans le Grand Est et les Hauts-de-France qui sont déjà passés en phase pré-épidémique selon le dernier bulletin de Santé publique France. Contre les violences conjugales, pouvoir porter plainte ailleurs qu'au commissariat ou à la gendarmerie, c'est un test que va lancer le ministère de l'Intérieur à partir de la fin de l'année. Policiers et gendarmes pourraient ainsi se déplacer pour rencontrer la victime dans le lieu qu'elle aura choisi, annonce Gérald Darmanin, chez des amis, dans la famille, à la mairie, si la victime a peur de se rendre au commissariat où l'accueil peut très certainement s'améliorer, reconnaît le ministre.
Il est 8h07, Florence. C'est un très vieux soldat qui sera honoré vendredi aux Invalides.
Hubert Germain, mort hier à 101 ans, le dernier compagnon de la Libération, parti rejoindre Londres à 20 ans après la capitulation de 1940. Il a fait la Libye, l'Italie, la Provence, les Vosges et l'Alsace, arme à la main contre les nazis. Il fut député et ministre. Et c'est au Mont-Valérien qu'il sera inhumé le 11 novembre lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Le Mont-Valérien, Éric Biegala, au lieu de mémoire où l'attend le caveau numéro 9.
Le Mont-Valérien, c'est d'abord un lieu symbolique, là où furent fusillés par l'occupant allemand plus d'un millier de résistants et d'otages civils. Et c'est là que Charles de Gaulle choisira, juste après-guerre, d'ériger un mémorial de cette France résistante et combattante. Le monument sera inauguré en 1960, une immense croix de Lorraine, sous laquelle reposent les dépouilles de 15 de ces Français, 3 résistants, 3 déportés et 9 combattants ayant pris part au combat de libération, auquel s'ajoute un 16e corps, celui d'un résistant d'Indochine tué par les Japonais, ainsi qu'une urne funéraire contenant les cendres de déportés inconnus prélevés dans des camps de concentration. Dès son inauguration, la crypte du mémorial garde une place disponible. Le caveau numéro 9, il est d'ores et déjà réservé au dernier des compagnons de la Libération. Créé en 1940 par Charles de Gaulle, l'Ordre des Compagnons a décoré de la Croix de la Libération 5 communes françaises, 18 unités combattantes et surtout 1038 personnes, françaises et étrangères, et un bon tiers d'entre elles à titre posthume. Hubert Germain était le dernier encore vivant. C'est sa dépouille qui reposera dorénavant dans le caveau numéro 9.
Et avec la mort d'Hubert Germain, dernier des compagnons, c'est une autre mémoire qu'il va falloir entretenir sans les acteurs qui ont fait l'histoire, mais il reste des lieux. 5 communes de France sont classées compagnons de la Libération: Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein. Et puis on apprend ce matin la mort d'un soldat d'aujourd'hui, un militaire de la force Barkhane tué au Mali. C'est le ministère des Armées qui l'annonce à l'instant sans plus de précision. La transition est trop lente. Le monde subira le réchauffement climatique, mais aussi des turbulences en matière d'approvisionnement s'il n'investit pas plus massivement dans les énergies propres. Avertissement lancé par l'Agence internationale de l'énergie ce matin, au lendemain de l'annonce du plan d'investissement France 2030 qui dédiera 8 milliards d'euros au nucléaire et à l'hydrogène vert. Et dans ce plan d'Emmanuel Macron, il y a aussi la culture française que le président voudrait faire rayonner davantage en développant les séries Made in France, notamment face aux mastodontes américains. Quelques heures plus tard, comme pour appuyer le propos, on apprenait la nouvelle suivante. Omar Sy se marie avec Netflix. L'acteur français, fort de l'immense succès de Lupin, vient de signer un contrat de plusieurs années avec la plateforme américaine Sébastien Paour pour produire et jouer dans des films.
Je suis agent d'entretien.
C'est le film Intouchable qu'il a fait connaître il y a 10 ans aux États-Unis. C'est sans doute à un autre succès qu'il doit la signature de ce contrat avec Netflix.
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
La série Lupin, sortie au début de l'année, version moderne du célèbre personnage de brigand élégant. Énorme succès des deux côtés de l'Atlantique et au-delà, adoubé par l'héritière de Maurice Leblanc, encensé par Sharon Stone. 2011-2021, rien n'arrête, la deuxième personnalité préférée des Français et seule tricolore dans le classement du magazine Time des personnes les plus influentes de la planète, c'était il y a un mois. Sa société de production basée à la fois à Paris et à Los Angeles va donc développer de nouveaux films avec la plateforme américaine dans lesquels il jouera et qu'il produira.
Ça va mieux, hein ?
Merci. Dans le communiqué commun, Omar Sy se dit très heureux de poursuivre sa relation avec Netflix et impatient de commencer leur nouvelle aventure. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et tiens, on reste dans le secteur avec un départ qui interroge, celui de la présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, quitte son poste aujourd'hui. Elle l'exerçait depuis 5 ans, elle voulait y rester, mais elle n'a pas été reconduite par l'Élysée. Son bilan pourtant est plutôt flatteur, 720 millions d'euros d'amende infligée à Google et plus d'1 milliard à Apple. Et elle laisse un gros dossier à son successeur, Manuel Ruffet, c'est la fusion TF1-M6.
Elle a marqué de son empreinte son mandat de 5 ans à la tête de l'autorité de la concurrence, en particulier parce qu'elle s'est attaquée aux GAFA, les géants américains du numérique. Alors elle-même l'a reconnu, son départ est une surprise. Isabelle de Silva, invitée de Jean Lemarié sur France Info.
C'est vrai que j'aurais souhaité pouvoir continuer ces chantiers importants, mais aujourd'hui j'ai envie plutôt de me tourner vers l'avenir de l'institution et de souhaiter à celui ou à celle qui me remplacera de pouvoir lui ou elle aussi donner le meilleur de lui-même.
Certains d'ailleurs n'hésitent pas à parler d'éviction quand il ne s'agit que d'un non-renouvellement. Car dans les semaines et les mois qui viennent se profile un vaste dossier, celui de la fusion TF1-M6. L'Élysée, le ministère de la Culture, le CSA même y seraient favorables quand Isabelle de Silva s'avouait plus réservée. Elle ne veut pas y croire.
Lorsqu'on connaît l'autorité, son mode de fonctionnement, les garanties d'indépendance qui l'entourent, le choix d'un président n'interfère pas avec l'issue d'un dossier. Bien sûr, chaque président a sa personnalité ou ses priorités, mais nous décidons pour ce type de dossier à plusieurs, de façon collégiale, ce qui garantit qu'il y ait plusieurs regards sur un même dossier.
En attendant la nomination d'un remplaçant, c'est le vice-président de l'autorité qui assurera l'intérim.
Manuel Ruffez, le luxe se porte toujours bien. LVMH, grâce à Vuitton et à Dior, enregistre encore une nouvelle hausse de ses ventes, plus 11% au troisième trimestre par rapport à 2019, soit avant la crise. Les achats ont bondi en Asie et aux États-Unis, mais ils sont toujours en baisse en Europe. C'est un maire afghan qui connaît bien Montpellier et qui vient presque miraculeusement d'y arriver en exil avec toute sa famille. Le maire de Razni avait envoyé un mail désespéré à la ville cet été au moment de l'arrivée des talibans. Il a réussi à fuir jusqu'à Skopje, en Macédoine, pour être finalement rapatrié grâce au MHB, le club de hand de Montpellier, mercredi dernier après son match de la Ligue des Champions. Écoutez le récit de Christian Assaf, élu à la métropole de Montpellier.
Au mois d'août dernier, on a reçu sur la boîte mail de la mairie un mail disant SOS, il faut me sortir d'Afghanistan. Je suis l'ancien maire de Razni, je suis citoyen d'honneur de Montpellier. Le maire de Montpellier, Michel Delafosse, prend en main le dossier, se bat auprès du ministère des Affaires étrangères, se bat auprès du ministère de l'Intérieur, se bat auprès des ONG pour voir, parce que l'aéroport est fermé à ce moment-là, et pour voir comment on peut faire sortir l'ancien maire de Razni et sa délégation, ils sont une dizaine, d'Afghanistan. Il a fallu 50 jours pour ça, et au bout de 50 jours, les voilà qui atterrissent à Skopje. Et nous partons accompagner le MHB, certes, dans l'espoir qu'il gagne, mais surtout pour ramener les Afghans, le citoyen d'honneur de Montpellier, le ramener à Montpellier. C'est un clin d'œil formidable de l'histoire, qui mêle le sport, qui mêle la petite histoire avec la grande histoire. C'est génial.
Voilà, ce maire afghan rapatrié grâce à l'avion affrété par le club de hand de Montpellier, l'élu de la métropole qui vient de parler au micro de Pascal Victory de France Bleu Héros. Est-ce qu'on entendra bientôt les arbitres en regardant les matchs de foot à la télé? Il en est question de les équiper d'un micro en Ligue 1. Une première réunion de travail a eu lieu hier à la Ligue dans l'idée de faire mieux comprendre, Maxime Fayolle, les décisions de ces arbitres.
Donner accès en temps réel aux conversations des arbitres
arbitre va amener plus de transparence au football, note Joël Quignoux, l'ancien arbitre qui a changé d'avis sur la question au fil des années.
Moi, j'étais sceptique parce que effectivement, bon, les échanges, je disais que c'était personnel, mais après, je me suis rendu compte que finalement, non, ça allait dans le bon sens, ça œuvrait justement pour apporter une meilleure attitude, un meilleur comportement et de la pédagogie également pour tous les acteurs et pour tous ceux qui aiment le football.
Prenez l'exemple du but de Kylian Mbappé en finale de Ligue des Nations contre l'Espagne. Avoir accès au dialogue des arbitres aurait pu calmer certains esprits pour Joël Quignoux.
Il y aura toujours des problèmes d'interprétation. Il n'empêche que ça va aller diminuer certainement et on comprendra mieux ce qui a amené l'arbitre à prendre telle ou telle décision. C'est ça qui est important.
Le football veut se servir de l'exemple du rugby. Les micros sont notamment utiles dans les relations avec les joueurs, explique l'arbitre Romain Poit.
Quand on porte un micro, la communication ne peut plus être la même. Et on a ce devoir de réflexion, mais c'est bien, on ne peut pas demander aux gens de nous respecter sans être en capacité de respecter les autres. Donc, trouver les bons mots, essayer d'être impactant sans être irrespectueux, c'est quelque chose qui forcément fait avancer l'arbitrage en général.
Au rugby, en tout cas, le micro a fait ses preuves puisque cela fait plus de 25 ans qu'il est en place sur les arbitres français.
Voilà, et un dernier mot pour vous dire qu'après l'Allemagne, le Danemark est la deuxième équipe nationale à se qualifier pour le mondial de l'an prochain au Qatar.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et Marie-Pierre, toujours des grisailles matinales.
Et oui, Nicolas, avec les hautes pressions, les bancs de brouillard se forment toujours au nord de la Loire, du bassin rennais à la baie de Somme. Et on a toujours ces bruines près des frontières belges et allemandes. Et le jour s'est levé sous un ciel bien nuageux, du massif central à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Lyonnais. Ailleurs, le soleil s'est levé avec du vent autour de la Méditerranée et déjà des averses orageuses éclate en Corse où il fait 17 degrés à Porto Vecchio. Contraste avec les petites gelées dans le nord-est ou à Aurillac. Vous avez 2 à Mont-de-Marsan comme à Strasbourg, 6 à Quimper et à Guéret, 8 à Paris, mais 15 à Cherbourg et 14 à Montpellier.
Et cet après-midi sera plus ensoleillé.
Après la dissipation des brouillards, Nicolas, le soleil sera plus généreux sur une bonne partie du pays, avec les nuages qui vont se morceler du massif central au Jura aux Alpes. Seules les régions du nord-est garderont un ciel chargé avec des bruines toujours près des frontières. Et en Corse, les orages continueront d'éclater. Et en journée, on ne dépassera pas les 10 degrés en Haute-Savoie, 13 à Nancy, 14 à Bourges. Vous aurez 15 à Lille, Lyon, il fera 16 à Paris, 17 à Carnac, 19 à Toulouse. On atteindra quand même les 20 à Marseille, 21 à Perpignan et à Bastia.
Merci Marie-Pierre. À tout à l'heure. France Inter, il est 8h18, géopolitique.